À un moment de la réunion, réaménagement du territoire, on entend que l'usine n'est pas viable, rapportera plus ailleurs. Le choix est déjà fait. L'information est dite dans une réunion pour autre chose, indifférente et brutale, l'information. Le site de l'usine de la petite ville fermera sans doute. Le choix est fait, dit-on. On entend, dit-on, sans doute, et fermera, puis fermera seulement. Ce que l'on imaginait pourtant de ce que l'on a entendu, fermera, pas viable, que l'on savait un peu, dans la réunion, avec tous les mots, tant d'hommes sur le carreau. Quelque chose tourne dans le corps, dans le ventre, la phrase, respirer fort, respirer, et tenir les lames, les larmes, là, à l'intérieur. On a entendu, et le corps aussi, la phrase tourne, dedans, mal, un engrenage qui brûle, tourne mal, respirez fort. On est celle qui écrit, la fille, la compagne, un travail ailleurs, et dans le ventre soudain comme un rétrécissement de vivre, et la colère aussi. Qu'est-ce qui fait du travail son absence, la rétractation, tant sur le carreau? C'est du froid partout et lavage à grandes eaux. Les hommes seront où? Je vous en lis plusieurs extraits. Ça me plaisait beaucoup, donc j'avais envie de partager ce texte. Dans une usine où ils ne sont plus, je dirais usine, pour l'enfance, pour le père qui usa des jours, tant d'heures chaque jour. Usine, pour la vérité du bruit dans le mot, du cambouis, du goudron dans le mot, et jusque sous les ongles. Entreprise, on doit dire. Ça ferait moins de machines à répétition. On serait pris entre soi, consentants et propres, mais je dirais usine, là où ils ne sont plus. Je dirais usine, pour l'enfance, pour le père dont elle a pris le corps, pour le père et tous qui donnent leur sérieux et leur savoir, le geste et même sa répétition à usiner des pièces. N'entreprennent pas les ouvriers, ils font. Il faudrait prendre le temps de regarder les mots. Dans cette langue, par exemple, que j'enseigne, le latin, le travailleur esclave y est un outil parlant, à côté des outils semi-parlants, les bêtes, à côté des outils muets, échelle. Plus tard, celui qui travaille s'appelle un cerf, l'esclave de la terre dans la nouvelle langue, la française, cerf pris de la latine où l'esclave était servus. Ou encore celui qui n'a que ses jours, qui n'est que son temps de travail, le journalier loué au maître, ou celui dont le nom porte la descendance, et ce serait beau de n'être que ses enfants, mais prolétaires, c'est encore ses bras et ceux des siens à donner au maître et au travail. Et maintenant, des hommes, matériaux dont le stock doit être géré par les directeurs des ressources humaines, des hommes qui travaillent, on dit qu'ils sont des variables d'ajustement. Ajustés à quoi? Toujours, invariablement dans les siècles, le mépris est soudé au corps du travail. Puis un dernier extrait. Déjà, de Paris à Fontenay, on n'avait pas compris. L'usine délocalisée, de la capitale trop chère à Fontenay-le-Comte, Vendée, province, et quelque chose des paysans à l'échine courbée encore dans les années 70, les syndicats se tairaient. On nourrirait les ventres mieux qu'aux choux, de Paris à Fontenay. Et maintenant, on comprend, de Fontenay à ce pot de Bulgarie, trop heureux de nourrir mieux les enfants et les soigner, les ouvriers courbent l'échine. Seront moins payés et travailleront plus longtemps dans la semaine, comme ici autrefois, à Fontenay, Vendée, France, maintenant Sopot, Bulgarie. Le roulement tourne, ce sera où demain? Quelle misère plus noire auront-ils créé pour mieux l'user, et nous aussi, avec nos piscines et nos plus belles voitures que... Voilà, donc je vous invite à lire ce texte, donc c'est « Croquis d'émolition » de Patricia Cotron-Dobiné. Alors l'enchaînement n'est pas trop difficile en fait entre ce texte et puis celui-ci, donc Mujik Mujik. C'est un texte qui est paru il y a 2 ans. Je l'avais écrit à peu près pendant l'hiver 2008. C'était la période où il y avait une grande période de froid. Beaucoup de gens mouraient dans la rue. Et j'avais découvert à cette occasion que des personnes vivaient dans des tentes et dans des baraques dans le bois de Vincennes. Et donc, ce qui m'avait beaucoup travaillé déjà auparavant, c'était la question de la perte de l'identité. Et puis donc, le travail s'est déclenché comme un accouchement, juste en fait à l'occasion de cette actualité. Donc, ce sont des portraits qui sont qui qu'on, que j'ai travaillé en les ayant vus et vécus de plus ou moins près. Cheyenne. J'ai un cheveu sur la langue et un chien. Tous les trois, on habite dans le bois, dedans des murs en plastique, ça claque, l'hiver, le vent, la neige. On s'accroche aux poteaux de fer, aux clous, aux nœuds des bois. J'use mes bras, à que ça s'envole pas, debout. Georges, c'est vide là-dedans. J'ai perdu le goût des gens. Un jour, j'arrivais plus à ouvrir la bouche, la langue accrochée au palais. J'ai tout quitté pour sous des quantités de ciel et feuilles. Ici, mon silence s'est défait. Je parle tout seul et qu'à tout ça, aux pierres, tout autour de ma cabane en bois, aux arbres. Ça m'est égal de voir personne que les ombres des promeneurs le dimanche sur les chemins. On les voit mieux l'hiver. C'est nu. Des fois, on entend les chevaux courir. André, c'est forcé. On oublie les mots. Ça se mélange les langues. Je parle dans le vent. Je donne plus de nouvelles au pays. C'est comme si j'étais mort. Mes mains ne servent plus à rien, à personne. C'est mort. C'est du petit bois, bon à mettre au feu. Marie, le bois me rentre dedans. J'en fais des rêves à faire froid dans le dos. J'ai les arbres qui me poussent à l'intérieur, les oiseaux que ça bouge là-dedans, et les feuilles tant que ça me sort par les yeux. Je pourrais tout flamber, que tout partirait en poussière. Je ferais un feu de ma vie, et tout le reste. Bâche, je fouette l'air quand il fait vent, je ranime les lieux, je bleue, je plastique le paysage. Ça me soulève le cœur de voir des hommes prendre racine là, finissent par ne plus voir que moi. Je recommence. Bâche. Je fouette l'air quand il fait vent. Je ranime les lieux. Je bleue, je plastique le paysage. Ça me soulève le cœur de voir des hommes prendre racine là, finissent par ne plus voir que c'est moi leur toit. Je claque alors plus fort, plus haut. Je remue le ciel, ne sens rien. Monique, j'ai perdu le nord, dingue, j'ai pas tenu la route. Je suis tombée là comme une pomme de pin. J'attaque, mon troisième hiver m'attaque, je me ivre. J'ai le corps plein et dessus les hommes des fois. Ce qu'il faut prendre de soi, sur soi. Mais à force, tout s'en va de moi. Ils sont assis en cercle autour d'un bidon. Dans le bidon découpé, il y a un feu. Tout autour d'eux, tout autour du feu, il y a une dizaine de tentes. Elles sont identiques. Ils disent que c'est leur village, un village de Gaulois. Ils disent qu'ils ne veulent pas d'étrangers parmi eux. L'un crache par terre. Qu'ils ne sont pas racistes, mais... De toute façon, ils s'en foutent. De toute façon, c'est eux que ça regarde. Ils regardent le feu. On entend des oiseaux. Il y a du linge étendu entre deux arbres. Des pantalons, des manches de pull touchent les herbes. Ils se taisent. On entend le bruit d'un zippo. L'un remet du bois dans le bidon. Ils ne savent pas ce qu'ils pourraient dire de tout ça. Ils disent qu'ils ne sont pas des bêtes curieuses. Ils se passent une bouteille de vin blanc. Sur les arbres entourant le camp, il y a des guirlandes de Noël. Il met ses mains dans le dos, comme ça. Il marche de long en large, il parle seul, il se parle à lui-même, dans sa barbe. Lui-même, c'est quelqu'un, quelqu'un avec une barbe. Il ne parle à personne, il parle à quelqu'un qui est à l'intérieur de lui. C'est ce qu'il dit, à quelqu'un les mains dans le dos et barbu qui marche de long en large. C'est lui et ce n'est pas lui, c'est ce qu'il se dit. Il se dit qu'il s'est perdu quelque part au milieu des autres. Mais il se dit aussi qu'il se retrouve quand il se parle. Il n'est donc pas complètement perdu. C'est ce qu'il se dit, c'est ce que personne ne veut comprendre. C'est ce qu'il dit quand il se met hors de lui, il fait ça. Il crie sur les gens qui passent, ils font des écarts. Il marche entre les gens, il met ses mains dans le dos pour aller plus vite. Il dit qu'il les dépasse tous, Jean. C'est une chambre petite, très petite. Elle doit faire 2 mètres de large. On y met là un lit à une place, un radiateur et un homme. On ne vient ici que pour dormir. On a droit à une nuit. On est de passage. On entre, on pose ses sacs à l'entrée. On longe le mur jusqu'au lit. Une chambre comme un couloir. C'est un lit à barreaux. C'est un lit à une place. Le milieu du lit se creuse, une empreinte. Il y a un énorme trou au milieu du lit, le poids des hommes. Au bout du lit, il y a une couverture pliée, une seule couverture. Il y a un oreiller sous plastique. Il y a un drap, une taie en papier, jetable. De la chambre, on ne voit pas le ciel. On ne voit que des immeubles et des panneaux publicitaires. De toute façon, on n'y vient que pour la nuit. Il y a une fenêtre petite. On n'ouvre pas. C'est une fenêtre qui ne s'ouvre pas. Les gardiens ont une clé. On n'a pas besoin de voir le ciel. On y vient la nuit et on repart à l'aube. On n'y vient que l'hiver. Et l'hiver, il fait nuit tard le matin et tôt le soir. On ne s'installe pas. Il y a une ampoule électrique au plafond pour tout éclairage. On est là pour dormir. Sur le mur, il y a des graffitis. Sur le mur contre lequel est le lit, sur le mur on lit Momo, Charlie, Karim, Paul, Georges, Attic, Dédé, Cheyenne, Ellie, Féodore, Raymond, Eddy, Andréi, Sonny, Ahmed, Francis. Mon père n'avait rien pour mourir. Mon père n'avait rien à se mettre. Mon père n'avait rien à se mettre pour mourir. Quelque chose sur le dos, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il donne tout. Il donne son corps à la médecine. Il donne tout son corps. Sa tête, son tronc, ses pieds, ses mains, ses jambes, et ce qu'il y a à l'intérieur de son corps, et tout son corps. Alors pourquoi lui mettre quelque chose par-dessus le corps, sur le dos? On pourrait lui mettre un pull, au moins un pull au moins. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans son armoire. Il n'y a pas un seul pull. Sans un trou, sans une tache. Il n'y a presque pas de pull. Il n'y a presque rien. Sa maison est comme ses pulls, des trous partout, et tout passe au travers. La pluie dans les bassines en plastique, alors un pull. Comment trouver un pull dans une maison qui ne ressemble plus à une maison? Mon père n'a rien eu à se mettre sur le dos pour mourir. Il avait à peine rien pour toi. Et pour le donner aux étudiants en médecine, car on donne notre père, on donne le corps de notre père à des étudiants, pour que les étudiants le découpent, il faut le rhabiller. Mais ils vont bien devoir le déshabiller, les étudiants, pour implanter leur scalpel. Ils feront bien d'autres trous dans son pull. Alors il faut acheter un nouveau pull à mon père mort, pour passer du lit au brancard, du brancard à la paillasse. On va devoir lui choisir un pull. On ne connaît pas la taille de mon père, on ne connaît pas ses goûts. Il est mort, mais on veut trouver un pull qui lui plairait. Un pull qu'il aurait porté vivant. Il n'avait pas un sou pour boucher sa maison et acheter un nouveau pull. Pas un sou pour mettre son corps dans un cercueil, pas l'envie surtout. Sur le marché, on cherche un pull pour mon père. On met le pull devant nos corps pour voir la taille. On tend les bras. On se prend pour le corps de notre père. On achète un pull pour mon père mort. On habille mon père mort avec son pull. C'est la première fois qu'on achète quelque chose à notre père. Le pull est trop grand pour le corps mort de mon père. Les manches couvrent un peu ses mains. Il lui tombe mal, on dit. Il ne pèse pas lourd dans son pull. On dirait que son pull est mort aussi. Quand il l'emmène, on voit ses bras chinés dépasser du drap. Son pull a dû être découpé au ciseau, jeté en boule sur le sol. On a dû marcher dessus. Et puis les restes du pull de mon père ont été brûlés. Un pull neuf et un homme usé. Ils disent que c'est là, sur ce carré de pelouse, qu'on les disperse, qu'on disperse ce qui reste des corps. Mon père vagabonde sur un carré vert, hôpital de Brest, depuis octobre 1999. Je vais lire des extraits de Se recoudre à la terre avec neige, donc qui est paru, c'est le dernier titre en fait que j'ai publié, donc aux éditions de Contre-Allée, dans la collection Langue de Poche. Je fais partie de la première fournée avec Amandine et Romain. Voilà, donc je vais vous en lire quelques extraits. Sur le perron, la neige et le ciel rose, on commence des phrases qu'on ne finit pas, juste qu'il fait un froid de loup. Et dans le champ en face, des hommes, fusils à la main, est-ce qu'il va finir par neiger? À l'intérieur de la maison, d'autres voix sourdes. Il faudrait rentrer, mais nos yeux ne se détachent pas des fusils pointés vers le ciel. On se prend en photo devant le frigo, le vieux frigo dehors, sous la grange, rouillé, qui ne sert plus à rien qu'au décor de la cour. On retrouve collé sur la porte des images, footballeurs, départements, animaux sauvages. On rentre le ventre devant l'objectif à tour de rôle. On passe un bras par-dessus les épaules de sa mère, de ses frères. On oublie de s'y mettre avec le père. On se souvient surtout de ses coups contre le frigo avec un ongle. On arrache les coins des autocollants. On pose les mains à plat sur la neige, la terre mélangée, comme ça. Cette idée de faire entrer la terre dans le corps. Vérifier que tout brûle sous la neige. Et la voiture en panne dans l'allée, la neige par-dessus le chauffage qui ne tombe plus assez, le bois qui ne prend pas, on reste longtemps à la fenêtre. Le voisin des blés, on hausse les épaules là. On en a fait le tour de ses vouloirs sortir de sous la neige. On écoute la guerre, on reprend du pain, on appelle sur le bord du tabouret, on ne parle plus. On regarde le jardin, on remarque l'eau glacée, on se décide. On va casser la glace pour les oiseaux, on revient s'asseoir, on regarde les oiseaux prendre bain, boire. On fait ce qu'on peut, on écoute la guerre. On appuie le dos contre la barrière en bois, craque un peu. On regarde autour de soi, mais on ne sait pas ce qu'on regarde. On reste pétrifié sous le soleil. Il y a d'autres maisons, d'autres corps, des arbres nus, l'odeur de la neige, presque rien. On ne se sent plus autant en vie. On ne rentre pas tout de suite. On lance la fumée de cigarettes sur la lune, les étoiles, les satellites. Ça ne disparaît pas. On finit par s'allonger dans l'herbe mouillée, la neige. On ne sait pas ce qui nous retient à cet endroit. Le sentiment comme un effondrement. C'est un ciel sans rien dessus, blanc. Ça recouvre tout, la neige. On n'entend rien tomber, et ça tombe. Et le corps qui ne se réchauffe pas. On se dit que on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. S'asseoir en dehors de son corps, cette fois encore. Regarder ce qu'ils font, les gens, ce que font les gens. S'enfonce dans la neige, les marques qu'ils font, les trous, et ces traces de pneus sur les flancs des collines. Ce que ça dessine, ce que ça dit. À se demander ça. On n'en fait rien de la neige. Toute l'épaisseur de ce monde dans une fenêtre. Tout juste se demande-t-on comment ce sera une fois que tout aura fondu, si la vie sera la même et si c'est bien la neige qui bloque les siens dans le silence. On dégage un peu de neige et c'est là qu'on trouve un oiseau mort, une mésange. On reste un moment à le regarder, à espérer qu'il s'envole peut-être. On ne sait pas quoi faire. On finit par le prendre dans ses mains, on ôte ses gants, on le retourne, on le soupèse. On ne se décide pas à le jeter dans la poubelle, ça paraît déplacé. On fait le tour du jardin, l'oiseau serré contre soi. On s'arrête près de la haie, on se glisse à plat ventre sous les buissons, gelés, là où il n'y a pas de neige. La veste qui remonte, le froid sur le corps. On pose l'oiseau à côté, tout à côté. On commence à creuser avec une pierre les mains nues, près d'une heure allongée, dans la neige, si longtemps qu'on croirait creuser un trou pour tout un homme. On dépose l'oiseau dans sa petite tombe, on le recouvre de terre, et quand on se relève, des voix de l'autre côté, On remarque que l'empreinte de son propre corps dans la neige. C'est à ce moment-là qu'on sent que ça tombe, les larmes. On lève fier les bras sans fermer les poings, le maître de neige à la taille. On se signale en vie, au paysage. On se recoue à la terre, avec neige. Je vais terminer avec un extrait d'un texte qui n'a pas été encore publié, qui le sera dans une revue. C'est une revue de la région des Pays de Loire, qui s'appelle la revue 303. Et en fait, ils ont demandé à un certain nombre d'auteurs de parler de leur relation à l'écriture. C'était une période un peu difficile pour moi de répondre à cette question, puisque c'était un moment où je n'écrivais plus depuis presque un an. Et donc, du coup, j'ai décidé d'écrire sur d'écrire un texte sur cette question de ne pas écrire. Donc, ça s'intitule 5000 signes. Je vais vous en lire quelques petits extraits, c'est une sorte de carnet de bord. Été 2011. Je crois que je vais écrire à propos de la pluie. Il pleut. Marguerite Duras. Je n'écris plus. Je n'écris pas depuis un an. Plus rien ne me traverse. Je suis vide. Je sonne creux. Je marche des heures. Je me nourris de terre, d'écorce, d'eau boueuse, de ciel gris. Un jour, on n'écrit plus. On ne sait pourquoi. Quand c'était exercice journalier depuis plus de 20 ans. Ce qui a tenu, tissé, raccommodé ma vie, d'un coup se découd. Je m'arrache au quotidien pour me mettre à la table. Rien ne vient là, sous la pleine lumière du jour. Ici n'est même pas un été. Tout va de travers. Je m'enfuis de la campagne et regagne la ville perdue. 23 mètres carrés. Je perds mes arbres, mes bois, mes chemins, mes prés. Mais ici, j'ai leurs souvenirs. J'oublie les clés du studio et me retrouve enfermée dehors. D'où vient que je ne puisse recouvrer mon intérieur. Automne 2011. Écrire vous tient à distance de la dépression. Philippe Ross. Je vis en surface. Pourtant, je me noie. Comme un trou d'air, la journée s'effondre en son milieu. J'ouvre le cahier. Mon corps me fait mal, il refuse d'écrire, il se cabre, il se rebelle. Je regarde, j'absorbe. Cette retenue avait un sens quand je pouvais m'appuyer sur les mots. L'écriture a été mon fil de pêche quand j'avais perdu la mémoire. Elle a ce merveilleux pouvoir de nous révéler à nous-mêmes. J'avais quitté la ville pour m'effacer tout en me retenant de disparaître complètement par l'écriture. Pas pour laisser une trace, juste pour exister, prendre chair quelque part. J'ai échoué. J'ai la nostalgie de l'obsession de l'écriture, la nostalgie des matins dans la cuisine à écrire. Je vais en prison. J'anime un atelier d'écriture à la maison d'arrêt de Nantes. J'ai lutté une moitié de vie contre mon enfermement, puis ces derniers mois à ouvrir des portes sur mon histoire, et me voilà de nouveau enfermée pour que d'autres écrivent. Ce sont des hommes, quoi qu'ils aient fait. Je vis avec cette idée comme je vis avec l'idée que mon père est mon bourreau et mon père est un homme. Quelques-uns d'entre eux pourraient être mon père, mais je n'ai plus peur. Je suis liée et déliée à mon père par l'écriture. Ici, je noue des liens, mais ne renoue pas avec l'écriture. Hiver 2011. J'écris pour cesser d'être celui que je suis, parce que si j'écris, je me transforme. Carlos Liscano. Je ne retrouve pas le chemin. Je ne peux plus écrire à partir de moi. J'ai épuisé mon sujet. Je suis épuisée, vidée. Une journée avec des signes de plus dans le cahier. Une journée vécue. Et demain, peut-être, biffer ces deux ou trois phrases. Recommencer. Printemps 2012. C'est une journée d'été. Je vais à la rivière silencieuse. Tout bouge doucement. Tout scintille. Tout m'arrive transformé. Tout se recrée. J'ai le paysage et les oiseaux dans ma bouche. Plus que me relis, je m'enlis. Jusqu'au parc, je me fonds, je me rythme, je me pulse, je me rouge et me verte. Tous les mots sont pour moi, ma peau leur fait tambour, tout résonne de nouveau. Les mots font du bruit dans le corps, mais ne sortent pas encore. Puis, quand les mains étaient occupées à éplucher des légumes et qu'il a fallu tout lâcher, saisir la page de journal en fermant carottes et navets et noter le poème, les mains pleines encore de terre. Celui qui écrit accepte de refaire alliance avec son silence intime. Jeanne Benhamer. Merci.